Les éditions de l'avenir présentent l'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir. Un texte d'Alain Le Bussy, rédigé en 1971. Le jour s'est levé. C'est un fait banal, je le reconnais. Il se produit si régulièrement depuis des milliards d'années. On peut le prédire pour le lendemain avec toute certitude de ne pas être démenti par les faits. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, jusqu'à cet instant précis où les premières lueurs ont enfin fait reculer l'obscurité, découpant la cime des hauts pins, j'ai douté. Profondément, au tréfonds de mon âme, j'ai douté. Si fort qu'au moment où la lumière est enfin revenue, je ne l'ai pas vue de suite. Mes yeux, oui, mais mon cœur, non. Je croyais rêver, je ne pouvais penser que l'avenir s'ouvrait à nouveau à moi. Maintenant, j'ai retrouvé mon calme, je crois. Pour autant que je revienne jamais à l'innocence ignorante où je vivais avant. Mais je peux espérer, sans toutefois revenir à la certitude tranquille qui était la mienne, qui est toujours celle de beaucoup, avant. La peur continue à me ronger, la peur de la prochaine nuit, des suivantes, la peur de l'instant qui vient. J'ai peur de revivre cette abominable nuit, de ne pouvoir échapper à ce labyrinthe de terreur où mes pensées affolées se sont enchevêtrées. J'ai peur de cette peur qui me ronge. Car elle ne serait pas aussi vive et profonde si elle ne reposait pas sur un brin, même infime, de réalité. J'ai peur, et pas seulement de voir cette nuit abominable revenir, mais simplement d'en rêver. J'étais épuisé en rentrant chez moi, et pourtant je n'ai pu fermer l'œil. Un jour, cette peur m'aura sucé, absorbé, dissous, digéré. Que restera-t-il alors de moi? Le jour s'est levé, c'est vrai, mais l'angoisse ne m'a pas quitté. Hier, la soirée. La nuit était sans lune, sans étoiles aussi, car le ciel était légèrement couvert, des filaments élancés que déchirait le vent, très haut, et qu'on apercevait à peine à cause d'une brume vague qui flottait sur les collines. Après les nuages sombres et lourds qui avaient défilé tout le jour, réussissant à retenir leur pluie lourde quelques heures de plus, c'était mieux, et surtout bon signe pour le lendemain. Je venais de finir de dîner et je débarrassais la table. La solitude a ses avantages, mais aussi ses servitudes. Quand ce fut terminé, je me suis mis à tourner en rond dans la maison. Je n'avais guère envie de travailler, l'inspiration n'y était pas. Et dans ces moments-là, lire ce que les autres avaient réussi à écrire me semblait pur masochisme. Je me demandais à quoi passer les 2 ou 3 prochaines heures. Je n'avais pas encore sommeil. Quand le carillon de la porte d'entrée m'a tiré de mes tergiversations en tintant 2 ou 3 fois. À cet instant, j'étais à l'étage. Durant les quelques secondes du trajet, je me suis demandé qui pouvait bien venir me voir à cette heure. La maison était isolée à l'extrême pointe d'un lotissement encore incomplètement bâti, et je ne l'occupais que temporairement. C'était un ami qui l'avait mise à ma disposition pendant qu'il allait chercher le soleil sous des cieux plus cléments. Je n'étais là que depuis une semaine et je ne m'étais lié avec aucun des ménages fort casaniers qui étaient mes plus proches voisins, à plus de 200 mètres d'ici, de toute façon. Et personne ne connaissait mon adresse momentanée, sauf ma mère, qui savait trop bien mon besoin de calme et d'isolement, pour l'indiquer à qui que ce fût. J'ai allumé la lampe du porche et ouvert la porte. L'inconnu était là. Inconnu, elle l'était en cet instant et elle l'est restée depuis. Avec tout le contenu de mystère que peut comporter ce terme, elle est l'insaisissable, l'incompréhensible, l'incomparable. Cet élément qu'on découvre au milieu d'une série cohérente, qui ne s'accorde pas avec le reste et choque l'entendement. Ce qui me frappa en elle au premier abord était l'eau qui s'écoulait en grosses gouttes de ses longs cheveux noirs. Cela m'étonna. Je n'avais pas remarqué qu'il pleuvait ou qu'il avait plu, car faisant un pas au dehors, je pus constater qu'aucune goutte de pluie ne venait me battre le visage. Et il n'y avait ni rivière, ni étang, ni piscine à proximité où elle aurait pu tomber. Elle s'appuya au chambranle. Tout en elle, ses yeux à demi-clos, ses traits pâles, son visage émacié, traduisaient l'épuisement le plus complet. Et elle tremblait violemment. Elle a levé une main pour s'accrocher au montant de bois et retrouver un peu de stabilité.
« J'ai froid !»
fit-elle, et ses mots s'achevèrent en un soupir. Elle avait un léger accent, pas vraiment étranger, mais pas tout à fait celui de la région. Elle paraissait inoffensive. Je n'avais aucune raison de me méfier, et si désemparée. Il aurait été parfaitement inhumain de lui fermer la porte au nez. « Entrez, il fait bon, et je vais remettre quelques bûches sur le feu. » J'ai dû la soutenir jusqu'à ce qu'elle atteigne l'un des larges fauteuils qui faisait face à l'âtre. Elle s'y est affalée, silencieuse et immobile. Elle respirait doucement, se détendait peu à peu, et les frissons qui la secouaient s'estompaient tandis que je remettais sur le feu la dernière bûche que j'avais dans la pièce. Je lui ai tendu un verre de cognac. Elle l'a humé, puis repoussé avec une grimace. Un instant plus tard, elle m'a presque arraché de la main le verre de Côte du Rhône sans prétention que je m'étais versé. J'ai laissé la bouteille à sa portée en sortant chercher quelques autres bûches rangées sous un appentis. Dehors, le sol était sec. Je ne m'étais pas trompé. Il n'avait pas plu. Pourtant, l'inconnue était complètement trempée. Elle avait même laissé derrière elle une piste humide en traversant la maison. En rentrant, je l'ai retrouvée toujours aussi immobile, le verre à la main. Seul le niveau de la bouteille m'indiquait qu'elle avait fait au moins un mouvement durant ma brève absence. Et seul le son de sa respiration un peu sifflante troublait le silence. Le temps que je m'occupe du feu, elle s'est transformée. Avec la chaleur provenant de l'âtre, un peu de vie lui revenait. D'abord par le regard. Ses yeux sautaient rapidement d'un point de la pièce à un autre, passant sur moi comme si je n'étais qu'un meuble parmi les autres. Rien ne laissait deviner les conclusions de cet examen approfondi. Mais je pouvais quand même sentir la tension monter en elle. Elle n'avait pas seulement froid, elle était inquiète et désorientée. Elle craignait peut-être mon attitude. Une femme sans défense, un homme seul, dans une maison isolée. Je ne crois pourtant pas que j'avais l'air du grand méchant loup. Elle paraissait si fragile, sous la cape informe qui dégoulinait toujours, mais qu'elle n'avait pas voulu retirer. J'ai voulu lui suggérer de se changer, lui prêter l'une de mes chemises et un jeans. Je n'ai pas osé, me demandant comment elle prendrait la proposition. Pourtant, cette cape et l'espèce de combinaison une pièce en simili-léopard ne devaient pas être agréables à porter dans ces conditions.
Je dois partir.
Elle s'est levée.
Je dois retourner vers la ville. Il est grand temps de...
Le reste se perdit dans un soupir. Dans cet état, à cette heure, à pied, pas question. Elle était déjà sur le seuil. Elle frissonnait toujours, titubait presque. J'ai encore essayé de la raisonner. Rien n'y faisait. Elle devait être folle ou follement inquiète. Mais elle n'a pas offert de s'expliquer. Je ne pouvais décemment la laisser s'en aller seule dans la nuit. Je me suis dit que je l'accompagnerais jusqu'à la grande route, au bout du lotissement. Il y avait un arrêt de bus, avec un abri. Et puis, cette eau qui dégoulinait sans pluie, ce silence si brièvement rompu, ce comportement, tout cela m'intriguait. Sans compter l'inconnue elle-même, je veux dire son... corps. Même si cela me gêne de l'avouer, la voir à demi couchée dans mon fauteuil avait éveillé en moi certaines émotions. Je pouvais toujours espérer, si je l'accompagnais sur quelques centaines de mètres, qu'elle devienne plus raisonnable et, renonçant à son projet, accepte de revenir se mettre au chaud chez moi, ce qui m'ouvrait d'autres perspectives pour la nuit. Je n'ai pas l'air du grand méchant loup, mais pour poursuivre les analogies animales, mon cochon commençait à se réveiller. À peine avions-nous mis un bosquet de peupliers entre la maison et nous, que je me mettais à frissonner à mon tour. L'air était subitement glacé. Un souffle de vent froid était venu effacer d'un coup la tiédeur du printemps. J'ai resserré le col de ma chemise d'une main, serrer aussi les dents pour ne pas admettre ma faiblesse devant l'inconnu. Je ne tremblais pas seulement de froid. Tout à coup, la nuit, que je connais bien, qui m'inspire souvent, me semblait moins amicale. Il y avait dans l'air un je ne sais quoi, trop diffus pour que je l'appréhende, trop différent pour que je le néglige. Après l'air, ce fut le sol. Nous étions partis de la villa en suivant la route asphaltée. Un travail de chantier, rapide, déjà déformé par les camions chargés de matériel de construction qui passaient sans cesse durant la journée. Menant vers la nationale, à un peu moins d'un kilomètre de chez moi environ. Nous marchions sur le macadam. Puis, sans avoir bifurqué en dehors du chemin habituel que je commençais à connaître, nous n'y étions plus. Comment avions-nous fait? Les talons de l'inconnu claquaient sur un sol plus dur. Et je crois que c'est ce son différent qui a d'abord attiré mon attention. Nulle part dans le voisinage, je ne connaissais de route pavée de dalles hexagonales, comme celle où nous circulions depuis quelques instants. Mentalement, j'ai marqué un temps d'arrêt. Physiquement aussi, peut-être. Ou bien l'inconnue a fait la même constatation que moi. Elle s'est arrêtée un instant, à regarder autour d'elle, puis est repartie comme avant. Non, pas comme avant. Sa démarche s'était faite plus souple, plus assurée. La peur qui, maintenant je l'avais reconnue, lui déformait le visage pendant qu'elle était chez moi, disparaissait peu à peu. Et pendant ce temps, je sentais des plaques de plomb se river à mes semelles pour alourdir mon pas. Je n'éprouvais plus tout à coup qu'une seule envie, retourner me blottir devant mon âtre, porte fermée à double tour. Je devais quitter l'inconnu, l'oublier, faire comme si jamais elle n'était entrée dans ma vie. Mais cela, je ne le pouvais pas. Je continuais à la suivre sans réagir, comme enchaîné, trop faible pour me libérer, trop abasourdi pour questionner. Dans le silence de la nuit, j'entendais le claquement des talons de l'inconnu sur les dalles, se mêler au frisolis des gouttes d'eau tombant des feuilles pour s'écraser sur le sol. Ici, il avait plu récemment. Il y eut un roulement lointain, assourdi par la distance, comme si un train passait dans la vallée voisine. Sur la voie unique, désaffectée depuis 10 ans au moins, ai-je eu le temps de me rappeler avant que des cris stridents d'animaux sauvages n'éclatent quelque part devant nous. Malgré le froid, l'inconnu se débarrassa de son imper. Le clair de lune faisait briller la combinaison tachetée qu'elle portait en dessous. Le roulement se rapprochait, devenant peu à peu grondement. En même temps, des hurlements sauvages déchiraient la nuit, scandé sur un fond de claquements secs. L'inconnu roula sa cape en boule et la jeta sur le bas-côté de la route. Je m'arrêtai net. La main de l'inconnu se posa sur mon épaule, me tirant doucement vers l'avant. J'allais faire un pas, cédant à cette invitation, quand les hurlements redoublèrent d'intensité. Il s'accompagnait de grincements métalliques qui me rappelaient quelque chose. Au cinéma, une sorte de char antique devait foncer sur nous. Les claquements, c'était le fouet qui poussait les bêtes au galop. Ces bêtes qui hurlaient de rage ou de douleur. Mais qui ne hennissaient pas. Un détail qui m'a frappé. Je me suis raidi sur place. J'avais furieusement envie de rentrer chez moi. Même pas, courir loin d'ici me suffirait. Je n'avais aucune raison de participer à cette reconstitution pseudo-historique. De rester bloqué, refusant de faire un pas de plus, malgré la pression de plus en plus insistante de l'inconnu, incapable toutefois de faire demi-tour alors que je commençais à avoir vraiment peur d'elle ou de ce qui arrivait vers moi. Au-delà d'un tournant dans la route apparurent des lueurs faibles et mouvantes. Bientôt, 2 rangées de torches transpercèrent la nuit, portées par des hommes et des femmes nus qui couraient à perdre haleine. J'ai oublié un instant le caractère saugrenu ou abominable de la scène pour constater qu'il précédait bien un char me rappelant Ben-Hur, dont les ors brillaient dans la nuit. Sur le char, un homme, un colosse, vêtu de la même tunique que l'inconnu. Il maniait avec vigueur un fouet à longue mèche, cinglant 4 superbes coursiers. Parfois aussi, il aiguillonnait les porteurs de torches, si le rythme de leurs pas faiblissait ou s'ils s'écartaient du chemin à suivre. Les premiers torchistes sont arrivés à notre hauteur et ont ralenti en nous dépassant. L'homme a poussé un cri rauque tout en tirant sur les rênes. Et le char s'est arrêté à 10 pas de nous. L'inconnu avait toujours la main posée sur mon épaule. Une main douce, mais une présence ferme. Comme je voulais me détourner de ce spectacle aussi ridicule que nauséeux, les torchistes étaient maso au point d'accepter d'endurer de véritables coups de fouet et des larmes de sang perlées sur leur dos, sur leurs fesses, ôtant à leur nudité tout caractère érotique. Ses doigts m'agrippèrent douloureusement, éteignant mon épaule gauche dans un étau de fer. Tournant mon regard vers elle, je m'aperçus que ses lèvres s'étaient retroussées en un large sourire. Un sourire? Non, un rictus cruel plutôt. Tandis que l'orige arrêtait complètement son attelage, j'ai découvert les chevaux. Je ne savais pas ce que c'était Mais si je pouvais oublier un instant que tout ceci n'était, ne pouvait être, ne devait être, qu'un carnaval ou un trucage de cinéma, il n'était que de lointains cousins de la plus noble conquête de l'homme. Une corne acérée se dressait au milieu de leur front, et quand ils ouvraient la gueule, c'était pour montrer des crocs sinistres qui ne ressemblaient en rien à la mâchoire des quelques braves canassons que j'avais déjà approchés. Les torchistes formaient maintenant une sorte de haie d'honneur de part et d'autre de la route. Ils étaient pantelants et profitaient de cet instant pour tenter de reprendre leur souffle. Je crois qu'ils se seraient bien laissés tomber à terre, n'eût été la présence de leur patron. Il m'a semblé que certains me lançaient des regards suppliants, comme s'ils voyaient en ma présence un espoir d'échapper à leur sort. Il y eut même l'un ou l'autre mouvement dans la double ligne. Un ou deux coups de fouet vinrent bien vite les rappeler à leur rôle, et ils brandirent bien haut leurs torches. L'orige bondit à terre et s'approcha de nous. L'horreur me frappa brutalement. Dans la lumière des torches, je le voyais clairement. Il n'était pas vêtu d'une combinaison en peau de bête ou taillé dans un quelconque synthétique. Aucun tailleur ne pouvait par son art obtenir cet ajustement si parfait. J'aurais dû le savoir rien qu'à regarder les muscles de l'inconnu jouer sous son vêtement. Pour le colosse, c'est un détail différent qui m'a révélé la vérité. Je ne suis pas amateur de beaux garçons, ni voyeur. Mais quand un homme nu se présente devant moi, où voulez-vous que mon regard se porte, avec discrétion si c'est possible? C'est naturel, une simple question de comparaison. On est toujours un peu curieux en ce domaine. De près, moins de 10 mètres, je voyais le sexe hirsute se balancer entre deux cuisses puissantes. J'ai détaché avec peine, je l'avoue, mon regard de ce point particulier pour détailler le colosse qui s'approchait de nous. Je voyais des muscles dignes d'un culturiste rouler à chaque pas sous ce vêtement. Non, cette peau, sa peau, et une odeur âcre de sueur plus animale qu'humaine atteignit mes narines. De mes yeux moins innocents qu'ils ne l'étaient quelques instants plus tôt, j'ai regardé l'inconnu. Vraiment regardé, comme au microscope, en quelques fractions de seconde. Elle ne portait aucun vêtement. Sa propre peau lui suffisait amplement. Un pelage d'une beauté sauvage, dont l'animalité anesthésia heureusement en moi toute velléité esthétique. Instantanément, je n'ai plus éprouvé que de la répulsion pour elle. J'avais aussi mal au ventre, de peur, surtout entouré de ces caricatures d'êtres humains, au dos zébré de coups de fouet, juste bons à éclairer le chemin pour leur seigneur. Je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un homme d'action, et je n'ai jamais pratiqué aucun art martial, et fort peu de sport en général, cherchant, du temps où j'allais à l'école, tous les prétextes pour sécher les cours de gym. Mais, nécessité faisant loi, mes muscles se sont réveillés. D'une secousse, j'ai réussi à me dégager de l'emprise de l'inconnu. On ne frappe pas une femme, même avec une fleur, me répétait-on jadis. Foin de tout cela, sans hésiter, devant sa fragilité apparente, je lui envoyais une manchette dans les côtes, y mettant toute la force de mon bras. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment une femme. Surprise, elle s'est écroulée au milieu de la chaussée, entre l'orige et moi. Sans jeter le moindre regard derrière moi, je me suis mis à courir. Une course désespérée. Je n'avais guère d'espoir de la remporter, et c'était la première course que je courais vraiment. Si je ne la gagnais pas, ce serait la dernière, sauf si... Non, ça ne me disait vraiment rien de passer le reste de ma vie tout nu à porter des torches ou à faire quoi que ce fût d'autre sous la pression du fouet. J'ai concentré toute mon énergie sur un seul but, atteindre la villa pour l'idée de sécurité qu'elle représentait. La porte n'était ni épaisse, ni particulièrement solide, sans parler des larges baies vitrées qui donnaient sur le paysage agréable. Mais je sentais que c'était un barrage suffisant pour me protéger de mes poursuivants. C'est à peine si je faisais attention à eux, car la poursuite était organisée derrière moi. Les roues du char s'étaient remises à déchirer le silence nocturne de leurs crissements et des cris de douleur chez les esclaves, harcelés par la mèche brûlante de rage chez leur maître, troués la nuit. La surprise du départ m'avait donné un peu d'avance, mais derrière la course était lancée à grands coups de fouet et à grand renfort d'imprécations lancées à la volée par l'orige. Mes poumons me reprochaient cette course insensée et un vent horrible me soufflait dans la gorge, tandis que mes jambes, torturées par l'effort, se faisaient de plus en plus lourdes. La lueur des torches se rapprochait, précédant de peu les sabots des coursiers. J'entendais distinctement le colosse continuer à exciter tant ses bêtes que ses torchistes, sans comprendre un seul mot de ce qu'il disait. Il hurlait dans une langue gutturale qui m'était totalement étrangère, mais les tonalités ne trompaient pas. Ce détail me relança de l'avant. Il confirmait ce que je soupçonnais, sans encore oser le croire. Tout à coup, mon pied buta contre un obstacle et je roulai à terre. Contusionné, j'entrepris de me relever, tout en sachant que j'avais perdu trop de temps, que c'était inutile, la villa était encore trop loin. Repartant en boitillant, j'ai regardé en arrière. Les premiers porteurs de torches n'étaient plus à 20 pas. Puis, dans la lumière mouvante qui s'approchait, j'ai distingué l'obstacle qui venait de me faire chuter. Il y avait comme une marche dans la route, un espace vague, brumeux, qui séparait les pavés hexagonaux du macadam en piteux état sur lequel je venais de m'effondrer. Sans quitter mes poursuivants des yeux, j'ai fait encore quelques pas en arrière. Je les ai vus ralentis. Entre les pavés et le macadam, le sol tremblotait. On ne voyait pas distinctement la limite et la zone imprécise allait en s'élargissant. Ce dernier détail me confirmait ce dont je me doutais depuis un moment, sans avoir eu le temps d'y réfléchir. Je venais de passer quelques instants ailleurs, dans un autre monde qui n'était pourtant pas l'autre monde. On y était trop vivant. Un autre univers, momentanément en phase, qui pouvait communiquer avec le mien. L'écart qui m'avait envoyé à terre n'existait pas quand j'étais passé par là avec l'inconnu. La cohérence du lien entre les deux univers disparaissait progressivement. L'espoir me revint. Oubliant mes poursuivants si proches, j'ai repris ma course. Voici ce qui s'est passé cette nuit. Depuis, le jour s'est levé sans que j'aie pu fermer l'œil malgré ma fatigue, mes muscles endoloris et trois quarts de bouteille de cognac. Je ne peux pas être absolument certain de la réalité de ces événements. Si je me risquais à en parler autour de moi, on se lancerait de rechef dans l'analyse de mes cauchemars. pour en tirer je ne sais trop bien quelle conclusion, ou pire encore. C'est vrai que j'étais seul, c'est vrai que j'ai peut-être rêvé. Mais alors, d'où viennent ces écorchures sur mon visage ou mes mains? Et d'où viennent ces marques sur mon épaule gauche qui virent lentement du bleu au jaune? Elles sont cinq, comme les cinq doigts d'une main. Et surtout, pourquoi l'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir en me rasant ce matin?
Les éditions de l'avenir vous ont présenté L'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir d'Alain Debussy, lu par Stanley avec la participation de K00 et de Christian Martin. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est distribué sous licence Creative Commons et produit par les éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.